Nous allons commencer ce matin une série de 5 prédications sur l'Église, en commençant par le thème justement de l'unité, de l'Église pour ce dimanche de Pentecôte. Nous sommes unis à Jésus-Christ par l'Esprit-Saint selon le plan du Père. L'unité chrétienne est au cœur de la foi chrétienne. Et on le réalise de plus en plus dans le monde évangélique notamment. Nous parlons désormais d'une Église une. Si vous avez croisé Étienne Gros-Renaud dans ces derniers mois, vous l'avez sans doute entendu parler de ça. Un texte même qui a été écrit au sein d'un réseau d'union d'Église pour parler de l'unité de l'Église une, avec un vrai désir de collaborer, de partager, de mutualiser, y compris entre familles d'Église différentes. Et c'est une évolution encourageante à noter. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans, et on parlait peu de l'unité du Saint-Esprit entre les Églises. Certains d'entre nous ont pu vivre cela de façon un peu plus concrète lors du congrès inter-Église du réseau FEF, qui a eu lieu à Montluçon il y a 3 semaines. Et c'était une première historiquement que plusieurs familles d'Église, plusieurs unions d'Église se retrouvent dans un même lieu pour vivre un temps de convention en commun. Nous étions plus de 1000 personnes réunies, issues de 8 unions d'Église différentes. L'ambiance était vraiment bonne. Les messages étaient profonds. Il nous a entre autres été rappelé lors de ce congrès qu'une des conditions de l'unité... Tiens, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi une des conditions de l'unité? Être centré sur Christ? L'amour? Ouais. Alors c'est juste, hein. Une des conditions, c'est aussi l'humilité. Et ça nous a été fortement rappelé lors de ce congrès, l'humilité du service de l'autre. Nous sommes unis les uns aux autres lorsque nous sommes capables de nous mettre au service les uns des autres. On a donc vécu la joie de l'unité sans triomphalisme et nous nous sommes laissés reprendre même sur ce thème de l'humilité, reprendre avec amour. Et ce n'est qu'un début pour le monde évangélique qui est si morcelé aujourd'hui encore. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à la petite délégation de notre Église pour ce congrès, j'ai cru comprendre qu'il y aura une deuxième édition dans 2 ans et qui est déjà en préparation pour 2028, disons, ce sera peut-être quand même 2029, on verra. Et ce congrès, ce nouveau congrès sera peut-être même ouvert aux familles avec enfants. En tout cas, c'est le projet. Et j'en viens maintenant du coup à un texte de la Bible. Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 6. Et donc le texte va s'afficher. C'est la version de la Nouvelle Bible en français courant, qui n'est plus nouvelle, mais c'est son nom. « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit-Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. » Et je vais m'arrêter déjà là, dans la lecture, puisque c'est un passage quand même assez dense, et je vais préciser quelques éléments de compréhension pour en venir ensuite à quelques applications. En premier lieu, donc dans l'Épître aux Éphésiens, quand il est question de l'Église, et c'est valable dans beaucoup de lettres de l'apôtre Paul, il s'agit en général de ce qu'on appelle l'Église universelle. Ça dépasse donc le simple rassemblement de croyants dans un lieu donné précis. C'est plutôt de l'Église universelle, le corps de Christ, l'ensemble des croyants dont il s'agit, ceux qui sont actuellement ici dans cette pièce, mais tous les autres répartis sur la surface de la terre, avec tous ceux qui sont également auprès du Seigneur déjà. Mais ce qui est dit de l'Église universelle, donc, concernera aussi les Églises qui en sont des expressions concrètes et locales. Dans le court texte qu'on a encore sous les yeux, ça tombe bien, on peut remarquer qu'il s'articule en deux temps. Il y a d'abord l'exhortation qui nous invite à nous efforcer de maintenir ou de garder l'unité, et ensuite une affirmation forte de l'unité de l'Église avec les fameux « un seul » et ensuite les quatre « tous » du dernier verset, hein, « le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous ». L'exhortation donc principale de ce texte, le premier verset, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres ». Je vais noter deux choses, souligner deux choses. Il y a déjà la notion de l'effort. Hein. Efforcez-vous, il y a un effort à faire de notre part. Nous avons une responsabilité dans l'unité de l'Église. Nous sommes appelés à travailler, à fournir des efforts pour que cette unité reste intacte et s'approfondisse même. L'apôtre ne s'adresse pas seulement ici dans ce texte aux spécialistes de l'unité, à quelques-uns seulement, ça devrait être l'affaire de tous. On a cette petite expression, les uns aux autres, la paix qui, l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Et vous savez, quand on a cette petite expression, les uns les autres, dans les épîtres de Paul, ça signifie que tout le monde est concerné. Tout le monde a une responsabilité vis-à-vis donc, de l'unité. Et la deuxième chose, c'est que la responsabilité qui est la nôtre est de maintenir cette unité, de la garder, de la cultiver, de la travailler, mais pas de l'établir. L'unité est établie par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à construire l'unité, mais la garder. L'unité est un don que Dieu nous fait. Grâce à Jésus-Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint qui nous lie les uns aux autres par la paix, nous dit ce texte. Et cette unité, nous sommes appelés à la garder, à la vivre, et elle est ensuite affirmée fortement dans les versets qui suivent. Il y a tous les un seul qui se répètent, et enfin les quatre tous, avec donc une affirmation très massive de l'unité. Si je relis juste les un seul, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Affirmation très massive de l'unité que le Saint-Esprit nous donne de vivre. Et on peut remarquer enfin que cette affirmation de l'unité est également trinitaire, puisqu'il y a l'Esprit qui est mentionné, donc l'Esprit, le Seigneur qui est Jésus-Christ, et lorsqu'il est question d'un seul Seigneur, il est question de Jésus-Christ ici, et le Père. Dans le dernier verset, le Père aussi de tous. L'unité de l'Église, c'est donc un impératif du Dieu trinitaire. À cause de l'unique Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'Église est appelée à être unie dans sa diversité, dans la diversité des personnes qui la composent. On pourrait même dire que l'Église, ça rejoint un petit peu la notion d'unité, de diversité dans la Trinité même de Dieu. L'unité dans la diversité dans l'unité. Et je vous propose déjà d'en venir à quelques leçons que nous pouvons tirer de ce texte, et je vous en propose trois. La première leçon, l'unité de l'Église, fortement affirmée donc dans ce texte, va de pair avec son universalité. Vous avez les un seul, les fameux un seul de notre texte, qui conduisent ensuite au tous. L'unité de l'Église ne peut pas être une unité de repli sur soi ou de retranchement dans un sorte de réflexe très très humain aussi peut-être, par rapport à la difficulté aussi de, du monde qui nous environne, de la société qui nous entoure, on pourrait avoir cette tentation de se replier, de se retrancher, d'y trouver une forme d'unité. Mais ce ne serait pas tout à fait l'unité dont il est question là dans ce texte. L'Église n'est pas un camp retranché ou une résidence privée sécurisée. Elle ne peut pas être unie en se retirant du monde, parce qu'alors elle oublierait sa vocation universelle. L'unité de l'Église ne peut être qu'une unité d'ouverture. L'Église doit ressembler à un abri, mais qui est ouvert et accessible. Un gîte, non pas surveillé par des caméras de surveillance, mais un gîte accessible, ouvert, accueillant. J'ai lu un jour ce slogan dans une église: notre foi est définie par un cœur et non des frontières. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme citation. On pourrait dire la même chose de l'unité de l'Église. Elle ne se nourrit pas des barrières qu'elle érigerait pour se protéger, mais du cœur qui l'anime. On n'est pas unis seulement quand on est bien entre nous, on est unis aussi quand on accomplit ensemble notre vocation commune, notre vocation universelle, lorsqu'on répond ensemble à l'appel de Jésus, qui a d'ailleurs dit « Je bâtirai mon Église ». C'est la sienne et il l'envoie en mission dans le monde. Les barrières, ce serait quoi? C'est tout ce que nous pouvons construire consciemment ou non pour nous protéger de ce qui est perçu comme un danger, et ça pourrait avoir le risque de nous couper complètement, nous couper de nos contemporains. Et ce sont des barrières qui sont souvent motivées par la peur. Le cœur qui nous anime, par contre, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une bonne nouvelle proclamée et vécue, on vient de le chanter, proclamée au monde entier, parce que nous sommes unis, parce que nous sommes ensemble, nous pouvons proclamer l'amour de Dieu au monde entier. Et s'il y avait un slogan pour résumer ce que l'Église est appelée à être, c'est cela: une famille unie pour manifester l'amour de Dieu au monde. La bonne nouvelle, c'est celle de l'amour de Dieu, de sa grâce, de l'espérance aussi que nous trouvons dans ses promesses. Une bonne nouvelle qui procure donc de la joie, de la paix, c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs le nom de notre Église. Deuxième leçon, l'unité de l'Église est l'œuvre de l'Esprit-Saint. J'en ai déjà dit un mot, mais je le redis, le garant de l'unité de l'Église, c'est Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit. Les deux sont indissociables. Le corps, ici, c'est une image pour parler de l'Église. Et aussitôt après avoir dit « il y a un seul corps », Paul ajoute « il y a un seul esprit ». Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y aurait même pas de corps. Il n'y aurait pas d'Église. À la Pentecôte, en acte 2, lorsque le Saint-Esprit vient sur les premiers disciples réunis à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte, justement, eh bien, c'est là qu'on parle de l'inauguration de l'Église. Le Saint-Esprit vient avec une manifestation de puissance, des manifestations miraculeuses, du parler en langue, et tout le monde comprend dans sa propre langue les merveilles de Dieu, nous dit le texte d'Acte 2. C'est un petit peu comme dans l'Ancien Testament, quand il y a eu la construction du temple, eh bien à un moment, Dieu vient habiter ce temple, et puis là, il y a aussi des phénomènes miraculeux, il y a même de la fumée qui remplit tout le temple, etc., cette nuée qui représente la présence de Dieu. Eh bien, l'Église est inaugurée à la Pentecôte, elle est ce temple que Jésus bâtit avec son esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'Église. L'Église est un corps qui est donc vivant, animé par l'Esprit-Saint. Elle n'est pas simplement une organisation humaine, une institution, même si elle était ordonnée par Dieu. L'Église est le corps de Christ. Dans le Jardin d'Éden, lorsque nous avons le récit de la création de l'humanité, on peut lire « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Alors pourquoi je vous cite ça? Parce que je vais faire un petit parallèle, le corps, l'esprit. Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière du sol, mais il a fallu qu'il insuffle dans ses narines le souffle de vie pour qu'il devienne un être vivant. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un écho à ce récit dans la façon d'évoquer l'Église comme un corps et d'y associer aussitôt l'esprit. L'Église est un corps, mais elle n'est qu'un corps vivant que parce que l'esprit, justement, l'anime et lui insuffle la vie. L'Église est un corps spirituel, un corps animé par l'Esprit-Saint. On peut envisager tous les projets possibles, mettre en œuvre toutes les stratégies de communication imaginables, structurer, organiser l'Église de la manière la plus efficace. Si on ne vit pas l'Église dans la dépendance du Seigneur, animée par son Esprit, tout cela serait vain. Les succès ne seraient qu'illusoires et trompeurs. L'Église est d'abord ce corps animé par l'Esprit de Dieu, avant tout le reste. Si nous ne mettons pas la prière, l'écoute de Dieu au cœur de notre vie, on essaye de le faire, de progresser dans notre vie de prière toute cette année avec ce thème de la prière, eh bien, si on ne nous efforçons, si on ne s'efforce pas à cela aussi, pour reprendre un terme de notre texte, nous prenons le risque d'oublier l'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu doit nous animer. Et troisième leçon, l'unité de l'Église est une espérance en marche. Alors vous savez que le mot espérance dans la Bible, ce n'est pas un vague espoir, j'espère que ça va bien se passer, que j'espère que Dieu, Jésus nous prépare une place. Non, l'espérance chrétienne, en fait, quand ce terme est utilisé, c'est quelque chose de certain, mais qui est encore à venir. Alors on l'espère, mais pas parce que on l'espère pas parce que ça a le risque de ne pas arriver ou de ne pas se produire. On l'espère parce que c'est certain. Et l'Église, l'unité de l'Église, c'est une espérance en marche, parce que c'est quelque chose de certain. On en a une petite image déjà de cette unité dans le livre de l'Apocalypse notamment, hein, de toute cette foule innombrable que personne ne peut compter, constituée de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les ethnies, de tous les peuples. Et ça, c'est notre espérance. Elle est certaine, mais elle est en marche aujourd'hui. On n'y est pas encore. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. L'espérance chrétienne n'est pas un vague espoir d'un avenir meilleur, c'est l'assurance que le projet que Dieu a mis en route s'accomplira pleinement au jour décidé par le Seigneur. Et l'unité de l'Église fait partie de ce projet. Et je suis content ce matin de voir qu'effectivement, on est déjà plusieurs peuples représentés dans la salle, mais pas encore tous les peuples. Mais quand même, il y a quand même pas mal déjà d'origine. Et c'est beau, c'est ce que Dieu veut, cette unité du peuple de Dieu. L'Église est appelée à être une communauté, du coup, qui vit de cette espérance-là, qui se nourrit de cette espérance, qui s'appuie des fois aussi au cœur de la difficulté, sur cette espérance. Nous savons que quoi qu'il arrive, notre horizon est celui-ci. Et nous marchons vers cette espérance que Dieu a préparée pour nous. Et cela, et la marche, hein, je ne vous apprends rien, la marche, ça implique de prendre une direction. Ça implique un mouvement à vivre. Hein. On ne marche pas si on ne se met pas en mouvement. Il s'agit de maintenir l'unité que donne l'Esprit, mais maintenir l'unité, ce n'est pas justement se figer, hein, parce qu'avec ce mot « maintenir », on peut avoir l'impression que c'est justement rester figé. Mais non, maintenir l'unité, et d'ailleurs c'est peut-être que comme ça qu'on peut y arriver, c'est en la faisant vivre. L'unité de l'Église est une espérance dynamique, en marche, Et la marche implique un certain déséquilibre, une direction à prendre, une vie qui est là. L'unité nous est donnée, je le disais, mais elle n'est jamais définitivement acquise. C'est un petit peu subtil, parce qu'on pourrait dire si elle nous est donnée, elle nous est acquise. Mais comprenez qu'elle nous est donnée et que nous avons la responsabilité de la cultiver. Et cultiver cette unité, c'est la vivre et la faire vivre. Alors concrètement, comment pourrons-nous être demain plus unis qu'aujourd'hui ? Hein, si on est en route vers cette unité encore plus forte, comment pourrons-nous être demain plus unis qu'aujourd'hui ? Entre nous, avec les autres communautés ? Comment pouvons-nous progresser dans notre perception de cette notion de l'Église universelle, corps de Christ ? C'est des questions, je ne vais pas forcément donner maintenant de réponse à ces questions-là, parce que ces questions, il est bon qu'on se les pose, ça nous fera méditer sur ce thème-là. Comment je peux être plus uni ? Comment on peut être plus uni en tant qu'Église ? Comment on peut être plus uni et prendre conscience de cette notion de l'Église qui dépasse encore l'Église locale ? Et nous faisons partie, peut-être même, j'ai envie de dire, d'abord de l'Église universelle, avant de faire partie de l'Église locale. Lorsqu'on demande, par exemple, dans notre Église ici, à devenir membre de l'Église, eh bien, c'est parce que nous faisons déjà partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est plus fondamental comme réalité. Peut-être on peut expérimenter aussi cette notion de l'Église universelle lorsqu'on voyage. Alors, pas besoin d'aller très loin, même dans une autre ville de France, par exemple cet été en vacances, vous aurez peut-être un dimanche où vous serez en vacances. Qu'est-ce que vous allez faire le dimanche matin ? La grâce matinée parce que vous êtes en vacances ? Ben, peut-être, mais peut-être qu'il y aura une église qui sera pas loin et ce sera l'occasion ben, peut-être d'aller visiter des frères et sœurs que vous avez jamais rencontrés et pourtant, ils font partie de la même église que vous, celle de Jésus-Christ. Et alors on avait Don tout à l'heure qui nous a conduit pour la louange, alors je pense que Don il a une vision de l'Église universelle, une expérience de cette Église universelle encore plus importante, avec ses nombreux déplacements dans le monde entier, le Canada, l'Espagne et l'Italie, et puis la France bien sûr aussi, et puis tant d'autres encore. L'Église à laquelle nous appartenons est vraiment grande, elle grandit même actuellement dans le monde. Elle souffre aussi, elle est persécutée dans bon nombre de pays, et ce sont nos frères et nos sœurs. J'en viens à quelques mots de conclusion. Il n'y a rien de plus porteur, valorisant, que de travailler à l'unité de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça va marcher. Puisque c'est une unité que Dieu nous donne, c'est une unité encore plus forte que Dieu prépare. Donc, si on s'engage à travailler à l'unité, eh bien, on est sûr de s'engager dans une bonne direction. C'est un des aspects de l'espérance chrétienne, c'est un des signes du royaume de Dieu qui vient. Travailler à l'unité de l'Église, ce n'est pas vivre dans l'entre-soi, car l'unité va de pair avec l'universalité, c'est un seul qui des versets qui conduisent au tous du dernier verset. Ce n'est pas faire de l'Église un projet personnel et humain, car l'Église reste l'œuvre de Dieu par son Esprit, l'œuvre de Jésus-Christ même, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas se figer non plus l'unité ou s'arc-bouter sur ses acquis. C'est s'ouvrir à une espérance en marche, celle du royaume de Dieu qui vient. Alors efforçons-nous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui nous lie les uns aux autres. Profitons de cette unité, faisons-la fructifier et qu'elle soit un témoignage pour le monde à la gloire de Dieu. Amen.